Lettres étrangères. Sylvain Bourmeau. Aujourd'hui, Ian McEwan.
Très heureux d'inaugurer ce cycle ici au Théâtre de l'Odéon et avec France Culture, cycle de littérature étrangère avec un auteur que je lis depuis très longtemps, que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis une vingtaine d'années à différentes reprises pour parler de son travail. C'est vraiment d'une œuvre aujourd'hui qu'il s'agit quand on prononce le nom de Ian McEwan, qui va donc être là ce soir pour nous parler de ce roman qui vient d'être traduit en français, The Children Act, mais aussi plus largement de son travail d'écrivain, une œuvre qui a démarré en 1975 avec la publication de son premier recueil de nouvelles. Ian McEwan avait à l'époque 27 ans. Il sortait du premier cursus de creative writing en Angleterre, celui de l'université d'East Anglia, qui a formé de très nombreux écrivains, mais il fait partie en quelque sorte de la première génération à avoir suivi ce type d'enseignement. Ce premier recueil a été tout de suite remarqué, notamment à travers un prix qui est extrêmement important pour ceux qui essayent de suivre ce qui se passe dans la littérature britannique. Je conseille vraiment de regarder à qui est attribué chaque année le Somerset Maugham Award, parce qu'en général, ça permet de défricher, ça va automatiquement un auteur de moins de 35 ans. Ça permet de savoir un peu qui va, à l'avenir, nous proposer des livres importants, parce que lorsqu'on regarde rétrospectivement, on est très impressionné par cette liste. Donc, pas très surpris que deux ans, je crois, ou une année après son ami, dont il sera question ici, Martin Amis aussi, Ian McEwan avait reçu ce prix. Alors voilà, on est 40 ans plus tard, on est 16 livres plus tard, c'est-à-dire 14 romans, 2 recueils de nouvelles. Je ne cite pas les pièces de théâtre, le livre pour enfants, le livret d'opéra, toutes choses que Ian McEwan a fait, c'est collaboration sur des scénarios de cinéma, l'adaptation de nombre de ses romans au cinéma, une œuvre donc considérable et qui propose, j'espère qu'on va pouvoir le mettre en évidence ce soir, des thèmes récurrents, extraordinairement forts et en même temps très originaux dans le panorama de la littérature mondiale, qui est celui qui nous intéresse ce soir. Je voudrais vous présenter Michel Zlotowski, qui va assurer la traduction des propos de Ian McEwan. Ian, peut-être on vient d'entendre quelques pages qui sont l'ouverture de ce nouveau roman et qui présentent ce personnage de Fiona May. J'aimerais qu'on aille plus loin avec vous et que vous nous disiez qui elle est et également comment vous l'avez inventée, comment vous l'avez imaginée, pourquoi vous avez décidé de mettre au cœur de ce nouveau roman un personnage féminin qui occupe un poste très particulier dans notre société, puisqu'elle est juge aux affaires familiales.
Well, there are only two sexes to choose from.
Et en fait, il n'y a que deux genres pour faire son choix.
But at the center of this novel,
mais au cœur de ce roman,
a very important confrontation between the
il
judge
y a une confrontation extrêmement importante entre le juge et un garçon de 17 ans
a blood transfusion.
Qui refuse une transfusion sanguine.
I wanted a powerful emotional connection between
je voulais un lien émotionnel très fort entre le juge et ce jeune homme.
And it wouldn't work with a male judge.
Et ça n'aurait pas fonctionné avec un juge masculin.
If I made the young Jehovah witness a girl,
si j'avais transformé ce jeune témoin de Jéhovah en fille
and the judge a man,
et que le juge soit un homme,
there would be something predatory about
il y aura quelque chose un petit peu de difficile à accepter de ce point de vue-là.
So,
prédateur.
Without even considering it, she was always,
donc,
she came towards me,
sans même y penser, elle est venue à moi comme sortant d'un brouillard.
So who is she?
Alors, qui est-elle?
Well, there's a kind of orthodoxy about novels and characters.
Il y a une sorte d'orthodoxie au sujet des romans et des personnages.
Which says that men are hopeless about talking about their emotions.
Qui disent que les hommes n'y peuvent rien quand il s'agit de parler de leurs émotions.
Very expert.
Et que les femmes en fait sont des expertes dans ce domaine.
And that men lose themselves in clouds of
et que les hommes se perdent dans les nuages intellectuels. et que les femmes voient véritablement au cœur des choses.
Well, none of this is true, of course.
Rien de cela n'est vrai, bien entendu.
But I thought it would be interesting to
Mais je pensais que ce serait intéressant d'aller contre le vent.
And have a highly intelligent woman
et d'avoir une femme extrêmement intelligente
vulnerable in the
qui soit finalement
sphere.
Vulnérable dans la sphère des émotions.
So that's how she began.
C'est comme ça que ça a débuté.
A highly accomplished
une
writer
femme
of judgments.
Très accomplie dans l'écriture de ses jugements.
When she first appeared, lying on a chaise longue,
quand elle apparaît pour la première fois, elle m'apparaît sur une chaise longue.
I knew nothing.
Je ne savais rien.
Characters have to be built from the bottom.
Vous savez, les personnages doivent être construits du bas vers le haut.
And I thought the situation would give her who
Et
she is.
La situation lui donnerait une assise,
It's like
une présence.
Dressing a doll and then the doll comes to life.
C'est, vous savez, c'est comme habiller une poupée et soudain, la poupée prend vie.
Vous disiez à l'instant qu'elle était l'auteur de jugement. Vous avez utilisé le mot « writer » pour elle. C'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'elle est un auteur, certes d'un genre différent de celui que vous pratiquez, vous, de la fiction, elle est l'auteur de droit, de jugement. On sait que le droit britannique est construit sur des cas, et que l'écriture de ces cas construit peu à peu les normes, la jurisprudence, mais qu'il y a là un véritable talent d'écriture. Est-ce que cette dimension a été très vite importante pour vous ?
It's very important.
Elle est très importante.
Right at the beginning, long before I wrote this novel,
dès le début, avant même d'écrire ce roman,
I was at dinner with several judges.
J'assistais à un dîner avec plusieurs juges.
I was fascinated by the way they knew each other's judgments.
J'ai été fasciné par la façon dont ils connaissaient les jugements passés par les uns et les autres.
They quoted each other.
Ils se citaient les uns les autres.
They teased each other.
Ils se taquinaient.
They were very severe on the judges
ils étaient
who were foolish
très sévères
to be absent.
Au sujet des juges qui avaient commis l'immense bêtise de ne pas être présents à ce dîner.
They reminded me of a table full of novelists.
Et ça m'a rappelé une tablée d'écrivains.
At some point in that evening,
et à un moment de cette soirée, j'ai ouvert un livre relié, composé des jugements de l'hôte de cette soirée.
And I realized that fiction had
et je me suis rendu compte que
trick.
La fiction avait raté un truc très important.
When fiction raids the courts,
quand la fiction décrit ou va voir les cours de justice, elle va voir les cours criminels.
Fiction loves
La fiction aime traditionnellement les crimes, les viols, les crimes en série. Mais dans le juge pour enfants et pour famille, on trouve l'amour, la fin de l'amour, le sort des enfants qui sont disputés par les parents. Toutes ces questions qui sont beaucoup plus proches, en fait, des dilemmes quotidiens.
The heart of,
et plus proche
our literatures.
Du cœur de nos littératures.
So I thought that a judge should be like the judge whose house I was having dinner in.
Eh bien, j'ai pensé que le juge devait être comme celui qui nous avait invité à dîner.
A superb writer.
Un excellent écrivain.
But not necessarily a superb person.
Mais pas obligatoirement quelqu'un de superbe en tant qu'individu.
Don't go together.
Parce que souvent les deux ne vont pas ensemble.
C'est la première fois que vous écrivez à ce point sur cet univers du droit que vous avez documenté. Vous avez dû lire énormément, mais ça, c'est une chose que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes intéressé par d'autres littératures que celles dont nous parlons ici, c'est-à-dire la littérature stricto sensu. Vous venez de dire votre découverte de la littérature juridique, mais avant ça, votre œuvre s'est beaucoup intéressée à la littérature scientifique. Je crois que vous êtes aussi un grand lecteur des revues scientifiques, des articles scientifiques, qu'encore une fois, vous considérez comme des textes qui intéressent l'écrivain que vous êtes. Parce qu'on y trouve aussi des histoires qui se racontent dans d'autres formes que celles de la fiction.
It's a mystery to me why
c'est un mystère pour moi.
The novel, especially the novel of the
Pourquoi
20th century,
le roman, spécialement le roman du 20e siècle,
never seemed very interested in work.
N'a jamais été semblé être intéressé par le travail.
The characters of Henry James, for example.
Les personnages de Henry James, par exemple.
They all have private income.
Sont des gens qui ont toujours des revenus.
James himself said that.
James lui-même a dit que.
The advantage of that is you could
get
to the essential human condition.
C'est qu'on peut arriver au cœur de la condition humaine.
I part company rarely for me, but I part company with James on this matter.
Je suis pas tout à fait d'accord avec James sur ce point.
Because part of the human condition is to work.
Parce qu'une partie de la condition humaine, c'est le travail, c'est de travailler.
For most of us.
Pour la plupart d'entre nous, en tout cas.
So, how people are is very much caught up with what they do.
Les gens, vous savez, sont très impliqués dans ce qu'ils font.
Difficult professions,
des professions difficiles,
extraordinary rules,
génèrent des règles extraordinaires, des
rights,
vocabulaires,
cabals,
des droits, des cabales.
To enter these really is a good way of opening up a
pénétrer ces choses-là, c'est véritablement une chose extraordinaire pour construire un personnage.
I love expertise too.
J'aime
other people's expertise.
L'expertise des autres.
And in all my research,
et dans toutes mes recherches,
I've discovered that
j'ai découvert que
you always get people to talk about their work. People
les
love,
gens aiment, finissent toujours par aimer parler de leur travail.
Mais il s'agit quand même de travail d'un type souvent particulier dans vos romans, que ce soit dans Saturday, dans le roman précédent Opération Sweet Tooth, qui est un roman d'espionnage, mais... Dans beaucoup de vos romans, on trouve, et là, dans celui-ci, une juriste, on trouve des gens dont le travail, dont vous parliez, consiste à connaître le monde, à le connaître selon des procédures très techniques, très particulières. Quand vous faites de votre personnage principal de Saturday un chirurgien, un neurochirurgien, vous intéressez à la manière dont la médecine essaye de connaître le cerveau en relation aussi avec la psychologie cognitive. Quand vous vous intéressez cette fois au droit, ce qui vous importe, c'est de savoir quels sont les outils utilisés par une juge pour décrire une réalité d'un point de vue juridique qui ne sera pas le même point de vue que celui d'un philosophe moral ou celui d'un romancier comme vous êtes, vous. C'est cet intérêt pour les différents modes de connaissance que je trouve l'un des thèmes récurrents de votre œuvre, Ian McEwan.
Well, I come from an intellectual tradition.
Eh bien, je proviens d'une tradition intellectuelle.
Probably began with John Locke.
On a commencé par John Locke.
And David Hume.
David Hume.
We are, in other words, we are materialists.
En d'autres termes, nous sommes pragmatistes, matérialistes, des gens pragmatiques, anti-théoriques.
The physical world.
Le monde physique.
And how we deal with things themselves.
Et la façon dont on traite avec les objets eux-mêmes.
That's what fascinates me.
C'est ce qui me fascine.
These professions, which I don't feel I've chosen,
ces professions
just arisen out of my own
interest. Je ne les considère pas comme choisies. Elles sont apparues comme ça à mon intérêt.
They all have two or three things in common.
One elles ont d'autres choses en commun.
One is they're very difficult.
Tout d'abord, elles sont toutes difficiles.
Especially to be a neurosurgeon.
Particulièrement être un chirurgien en neurologie, un neurochirurgien.
Second, they are very personal. I mean,
et ce sont des métiers extrêmement personnels.
Medicine and law are very similar in this.
Vous savez, la médecine et la loi sont très semblables de ce point de vue.
And thirdly, they're deeply
flawed. Et troisièmement,
mistakes get made.
Eh bien, vous savez, on peut faire des erreurs,
the law,
des échecs.
Is brilliant at its best.
La loi est merveilleuse à son meilleur.
But it can be a complete monster,
mais ça peut devenir un monstre
when it makes mistakes.
Au pire,
and
quand elle commet des erreurs.
Sometimes.
Et parfois, on se serre les coudes dans ce milieu-là.
Yeah. So, I am not really about to become like a careers master to the 18-year-olds of the world.
Je ne me présente pas comme quelqu'un qui peut dire quelles sont les bonnes carrières aux jeunes de 18 ans à travers le monde.
And the novel I'm writing now has nothing
et
to do with
le roman que j'écris en ce moment n'a rien à voir avec le travail de qui que ce soit.
But like many writers will
mais
tell
comme
you,
beaucoup d'écrivains vous le diraient,
one doesn't make such a conscious choice of
on ne fait pas
material.
Des choix tellement conscients du matériau sur lequel on écrit.
It grows out of current interests.
C'est de l'intérêt comme ça que l'on éprouve pour telle ou telle chose.
And it's just a bit of a chance that I somehow worked through so many professions lately.
Que j'ai écrit sur tellement de professions.
But that will cease.
Mais ça s'arrêtera.
Dans cette technicité des autres, elle vous intéresse au point que pour écrire ces romans, vous vous documentez de manière très précise. Je reparlais de ce neurochirurgien qui vous a conduit, ce personnage vous a conduit à assister à des opérations de très haute technicité, assez spectaculaires, j'imagine, pour comprendre de quoi il s'agissait, de ce travail précis. Donc, quelle est votre technique, à vous, cette fois, celle de la profession d'écrivain, celle que vous mettez en œuvre? Comment vous y êtes, si on prend l'exemple de L'intérêt de l'enfant, ce dernier roman? Comment vous avez procédé pour vous renseigner sur cet univers du droit? J'imagine que ce dîner chez un juge n'a pas suffi. Comment vous êtes-vous renseigné sur cet univers des témoins de Jéhovah dont nous parlerons, qui est aussi au cœur de ce roman?
You have to know maybe 10 times more than you will ever use.
En fait, il faut en savoir 10 fois plus que ce qu'on va utiliser.
In order to be free.
Pour être libre.
My biggest immersion was Saturday.
Ma plus grande émotion, c'était
I stood at the elbow of a surgeon
samedi
for 2 years.
En fait, j'étais Saturday. En fait, dans ce roman, j'étais à côté. J'ai côtoyé ce neurochirurgien pendant 2 ans.
Dressed in my scrubs, and I looked just like a surgeon.
Moi, j'étais habillé vraiment comme un chirurgien. J'avais l'air d'être un chirurgien.
All the male surgeons take the little chest hair they have and curl it over the V of their scrubs.
Eh bien, tous les chirurgiens font sortir leurs petits poils par le V de leur.
So as in many professions, there's always a macho element.
Et comme dans toutes les professions, il y a un élément assez machiste.
And it was while researching.
Et c'était pendant que je faisais cette
Saturday,
recherche sur Saturday.
Watching for the maybe 15th time.
Je regardais peut-être pour la 15e fois.
A certain procedure.
Un processus, une technique.
Two young students came into the.
Et deux jeunes étudiants sont entrés dans la salle d'op.
Two young women.
Deux jeunes femmes.
Fifth year medical students.
Des étudiants de 5e année.
And they came up to me and said.
Elles sont venues me voir et m'ont dit.
Doctor, could we
docteur,
watch the operation?
Est-ce qu'on peut regarder l'opération?
And I thought.
Et je me suis dit,
if I have learned
si moi
now, I
j'ai appris quelque chose maintenant, je devrais être capable de le faire.
So I said,
j'ai dit, bah, bien entendu.
And they said, what is going on?
Ils ont dit, bah, alors, il se passe quoi là?
So I said, we,
je dis, bien, nous, nous,
are performing a
nous sommes
middle,
en train d'opérer
middle cerebral artery,
une artère du milieu du cerveau.
Clipping.
Et en fait, on doit la cathétériser. Vous savez, on doit la pincer.
I said, if you'd like to come with me.
Est-ce que vous voulez venir avec moi?
L'aurais-je dit? The light box.
Je vais vous montrer, vous savez, la petite plaque lumineuse.
16 scans, CT scans.
Il y avait 16 scans.
And I was able to say we are taking the route of the famous Canadian
Et en fait, nous allons suivre la voie tracée par la technique canadienne bien célèbre.
And we are clipping an aneurysm, and here it is, and this is how.
Et là, vous voyez, on va cathétériser, enfin, on va cautériser plutôt un anévrisme ici.
So
il est là, voyez-vous.
I spoke for 10 minutes.
Et j'ai parlé pendant 10 minutes.
And afterwards, they thanked me.
Après, ils m'ont remercié.
And I've always wondered how they did in their exams.
Et je me suis toujours demandé comment elles avaient réussi leurs examens.
That was my highest point of emotion.
Ça, c'était le point le plus émotionnel que j'ai ressenti.
I never pretended to be a judge.
J'ai jamais prétendu être un juge.
It would be difficult.
Ça serait difficile.
I had the help
Mais
of one judge.
J'ai eu l'appui et l'aide d'un juge.
And this time round,
et cette fois-là,
I decided to write the novel and make all my
j'ai décidé
mistakes.
D'écrire ce roman et de faire toutes
and then
mes erreurs et ensuite de lui montrer.
Because most of my questions were
Parce que
trivial.
La plupart de mes questions étaient banales.
Is she wearing a wig this day?
Est-ce qu'elle portait une perruque ce jour-là?
How does her clerk address her?
Comment est-ce que son assistant lui parle?
By the first name, or does he call
Est-ce qu'il l'appelle par son prénom? Est-ce qu'elle lui dit madame, my lady, etc.?
It was a more efficient way of working.
C'est une façon beaucoup plus efficace pour travailler.
I felt a little nostalgic.
Et j'étais un petit peu nostalgique de cette immersion totale.
Alors retrouvons My Lady, précisément, Fiona May, ce personnage avec Amira Khazar qui va lire le début de l'intérêt de l'enfant. Amira Khazar.
Quand un tribunal se prononce sur une question relative à l'éducation d'un mineur, l'intérêt de l'enfant doit être la priorité absolue de la Cour. Article 1, Children Act, 1989. Londres. Une semaine après la Pentecôte, pluie implacable de juin, Fiona May juge aux affaires familiales un dimanche soir chez elle, allongée sur une méridienne, regardant fixement au-delà de ses pieds gainés par un collant, le fond de la pièce, un pan de la bibliothèque installé en retrait de la cheminée, et de l'autre côté, près d'une haute fenêtre, la minuscule lithographie de Renoir représentant une baigneuse achetée 30 ans plus tôt pour 50 livres, sans doute un faux. Dessous, au centre d'une table ronde en noyer, un vase bleu. Aucun souvenir des circonstances de son acquisition, ni de la dernière fois où elle y a mis des fleurs. Pas de feu dans la cheminée depuis un an. Le tic-tac irrégulier des gouttes de pluie noirâtre tombant dans l'âtre sur des feuilles de papier journal jaunies roulées en boule. Un tapis de boucara sur le parquet ciré à large lame. En lisière de son champ de vision, un piano demi-queue avec plusieurs photos de famille à cadre d'argent posées sur sa laque d'un noir profond. Par terre, au pied de la méridienne et à portée de main, la copie d'un jugement. Et Fiona, couchée sur le dos, rêvant de tout envoyer par 10 mètres de fond. Dans sa main droite, son deuxième scotch coupé d'eau. Elle était encore sous le choc, mal remise d'un moment difficile avec son mari. Elle buvait rarement, mais le talisker à l'eau du robinet l'apaisait, et elle n'excluait pas de retraverser la pièce pour s'en servir un troisième. Moins de whisky, plus d'eau, car elle siégeait au tribunal le lendemain. Et là, elle était astreinte, à disposition en cas de requête urgente, alors même qu'elle essayait de récupérer. Il avait tenu des propos choquants et placé un fardeau insupportable sur ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle avait crié et un vague écho résonnait encore à ses oreilles. Quel con, quel pauvre con! Elle n'avait pas juré à voix haute depuis ses virées d'adolescente à Newcastle, même si un gros mot lui venait parfois à l'esprit lorsqu'elle entendait un témoignage complaisant ou un argument irrecevable. Peu après, d'une voix enrouée par l'indignation, elle avait répété bien fort au moins 2 fois « Comment oses-tu ?» Pas vraiment une question, mais il avait répondu calmement « J'en ai besoin, j'ai 59 ans, c'est ma dernière cartouche. » J'attends encore qu'on me prouve qu'il y a une vie après la mort. » Remarque prétentieuse à laquelle elle n'avait rien trouvé à répliquer. Elle s'était contentée de le dévisager bouche bée peut-être. Esprit d'escalier oblige, la réponse lui venait à présent sur la méridienne. « 59 ans, mais tu en as 60, Jack, c'est pathétique, c'est banal. » Au lieu de quoi, elle avait dit « faute de mieux, c'est complètement ridicule. » Quand est-ce qu'on a fait l'amour pour la dernière fois, Fiona? Quand? Il lui avait déjà posé la question sur un mode plaintif, voire implorant. Mais le passé récent, très encombré, vous échappe parfois. La chambre des affaires familiales regorgeait d'étranges particularismes, de recours spécifiques, de demi-vérités intimes, d'accusations exotiques. Et comme dans toute juridiction, il fallait assimiler au pied levé des circonstances singulières et des enjeux subtils. La semaine précédente, elle avait entendu les requêtes de parents juifs en instance de divorce qui ne partageaient pas la même orthodoxie religieuse et s'affrontaient sur l'éducation à donner à leur fille. Un premier jet de son jugement attendait près d'elle sur le sol. Le lendemain, comparaîtrait à nouveau devant elle une Anglaise désespérée, pâle et décharnée, universitaire, mère d'une fillette de 5 ans, persuadée malgré les promesses prononcées par le père devant la cour, que sa fille allait être soustraite à la justice par ce dernier, homme d'affaires marocain et musulman de stricte obédience, et commencer une nouvelle vie à Rabat où il comptait s'installer. Pour le reste, les différends habituels sur le lieu de résidence des enfants, le sort d'une maison, les pensions alimentaires, les revenus, les héritages. C'étaient les gens aisés qui se retrouvaient devant le juge aux affaires familiales. L'argent échouait souvent à faire le bonheur. Les parents maîtrisaient rapidement le vocabulaire juridique et la sophistication des procédures et n'en revenaient pas de mener un combat si acharné contre celui ou celle qu'ils avaient aimé. Cependant qu'en coulisses, leurs enfants mentionnés par leur prénom dans le dossier, des petits Ben et des petites Sarah, perplexes, se blottissaient les uns contre les autres, tandis que les dieux, au-dessus d'eux, se livraient une guerre sans merci à la médiation familiale, au tribunal de grande instance et jusqu'à la cour d'appel. Tout ce malheur portait sur les mêmes thèmes communs à l'humanité entière, mais il continuait de la fasciner. Elle croyait faire entendre la voix de la raison dans des situations sans espoir. Plus généralement, elle croyait aux dispositions du droit de la famille. Dans ses accès d'optimisme, elle voyait une preuve significative du progrès de la civilisation dans le fait que la loi plaçait l'intérêt de l'enfant au-dessus de celui de ses parents. Elle avait des journées bien remplies, et le soir, depuis peu, divers dîners, un concert à King's Place, Schubert, Scriabine, le taxi ou le métro, le linge à récupérer au pressing, la rédaction d'une lettre à une école spécialisée pour le fils autiste de la femme de ménage, et enfin, dormir. Où était la place de la sexualité? À cet instant précis, impossible de s'en souvenir. Je ne tiens pas de comptabilité. Il avait levé les bras au ciel, conforté dans sa position. Elle l'avait regardé traverser la pièce pour se servir un verre du Talisker qu'elle buvait à présent. Il lui paraissait plus grand ces derniers temps, mieux dans sa peau. Alors qu'il tournait le dos, un mauvais pressentiment l'avait étreinte. La peur d'être rejetée, de subir l'humiliation, d'être abandonnée pour une femme plus jeune, de rester sur le bord de la route, inutile et seule. Elle s'était demandé s'il ne valait pas mieux dire oui à tout ce qu'il voulait. Puis s'était ravisé. Il était revenu vers elle, son scotch à la main, sans lui proposer un verre de Sancerre comme souvent à la même heure. « Qu'est-ce que tu veux, Jack ?»« Je vais avoir une liaison. »« Tu comptes demander le divorce ?»« Non, je veux que rien ne change, pas de trahison. »« Je ne comprends pas. »« Bien sûr que si. Tu m'as pas dit un jour que les vieux couples aspiraient à des rapports fraternels ?» On y est, Fiona, je suis devenue ton frère. C'est confortable, attendrissant, et je t'aime. Mais avant de mourir, je veux vivre une grande aventure passionnée. Prenant à tort son hoquet pour un petit rire, pour une moquerie peut-être, il avait ajouté sèchement, « L'extase à en perdre la tête ou presque, ça ne te rappelle rien ? Je veux y goûter pour une dernière fois, même si toi tu n'en as pas envie. À moins que si. » Elle l'avait dévisagé avec incrédulité. Alors dans ce cas, c'était là qu'elle avait retrouvé sa voix pour traiter de con. Elle maîtrisait parfaitement les règles de la bienséance. S'il l'avait trompée dans le passé, bravo l'artiste. Elle connaissait déjà le nom de cette femme, Mélanie, pas si loin de celui d'un cancer de la peau incurable. Elle savait qu'elle ne se remettrait sans doute pas de la liaison de son mari avec cette statisticienne de 28 ans. « Si tu fais ça, c'en est fini de notre couple, tout simplement. » Une menace. Une promesse solennelle. À ce stade, elle avait retrouvé son calme. Et tout paraissait simple, en effet. Le meilleur moment pour s'offrir une liberté mutuelle se situait avant le mariage, pas 35 ans plus tard. Tout risquer pour connaître à nouveau un éphémère frisson de sensualité. Lorsqu'elle tentait de s'imaginer en proie à semblable désir, Sa dernière aventure, à elle, serait sa première. Elle ne pensait qu'à la désorganisation, aux rendez-vous secrets, aux espoirs déçus, aux coups de fil intempestifs. À l'apprentissage délicat des exigences d'un nouveau partenaire, de nouveaux mots tendres, du mensonge. Pour finir, l'obligation de se séparer, le nécessaire effort de franchise et de sincérité, et le fait qu'ensuite, rien ne serait plus comme avant. Non, elle préférait une existence imparfaite comme l'était la sienne désormais. Mais sur la Méridienne, impossible d'ignorer la portée réelle de l'affront, l'acharnement de Jack à se faire plaisir au prix de son bonheur à elle, sans état d'âme. Elle avait déjà vu arriver à ses fins, au détriment d'autrui, pour une bonne cause la plupart du temps. Son attitude présente était une nouveauté. Qu'est-ce qui avait changé? Il s'était redressé de toute sa hauteur pour se servir son whisky pur malt, bien campé sur ses deux pieds, marquant avec les doigts de sa main libre le rythme d'une mélodie qu'il fredonnait intérieurement. Peut-être une chanson d'amour, mais qu'il ne partagerait pas avec elle. Qu'il puisse la blesser et s'en moquer, là était la nouveauté. Il s'était toujours montré bienveillant, loyal et bienveillant. Or, la bienveillance, comme la chambre des affaires familiales le prouvait quotidiennement, était un ingrédient humain essentiel. Fiona avait le pouvoir de retirer la garde d'un enfant à un parent malveillant. Il lui arrivait de le faire. Mais se soustraire elle-même à la garde d'un mari malveillant, alors qu'elle était faible et en pleine détresse, où se trouvait le juge chargé de sa protection? Elle supportait mal l'apitoiement sur soi chez les autres et refusait d'y céder à présent. Elle préférait se servir un troisième scotch, mais ne s'en versa qu'un doigt symbolique avec beaucoup d'eau et regagna sa Méridienne. Oui, leur discussion était de celle qu'il aurait fallu prendre en note. Important d'en garder le souvenir, de bien mesurer la gravité de l'offense. Quand elle avait menacé de mettre fin à leur vie commune, s'il s'obstinait, il s'était borné à se répéter, à lui redire qu'il l'aimait et l'aimerait toujours, qu'il n'y avait pas d'autre vie possible, que ses besoins sexuels inassouvis le rendaient malheureux, qu'une chance unique se présentait à lui, qu'il voulait la saisir sans rien lui cacher, et si possible avec son accord. Il l'informait par honnêteté. Il aurait pu tout faire derrière son dos, le dos mince, impitoyable de Fiona. Oh, avait-elle murmuré, c'est trop aimable, Jack. Eh bien, en fait, il n'avait pas terminé. Sans doute s'apprêtait-il à lui dire que cette liaison était déjà consommée, et elle n'aurait pas supporté de l'entendre. Elle voyait d'ici la situation. Une jolie statisticienne travaillant sur la probabilité toujours plus faible que le mari retourne vers une épouse aigrie. Une matinée ensoleillée, une salle de bain inconnue, et Jack, encore décemment musclé, enlevant par la tête sa chemise en lin blanc à moitié déboutonnée d'un geste impatient bien à lui pour la jeter vers le panier à linge sale où elle restait accrochée par une manche avant de glisser à terre. La perdition. Elle aurait lieu. Avec ou sans son consentement? La réponse est non. Elle avait parlé avec l'intonation ascendante d'une institutrice inflexible et ajouté « Qu'espérais-tu que je te dise d'autre ?» En proie à un sentiment d'impuissance, elle voulait mettre fin à la conversation. Elle devait donner, avant le lendemain, son feu vert pour la publication d'un jugement dans « Family Law Reports ». Le sort de deux écolières juives était déjà réglé par la décision qu'elle avait rendue au tribunal, mais il fallait soigner le style et veiller au respect dû à la religion pour se prémunir en cas d'appel. Dehors, la pluie estivale tambourinait contre les vitres. Plus loin, au-delà de Gray's Inn Square, des pneus crissaient sur la chaussée mouillée. Il allait l'abandonner et le monde continuerait de tourner. Ses traits étaient crispés lorsqu'il avait haussé les épaules et tourné les talons pour quitter la pièce. À la vue de son dos qui s'éloignait, elle avait de nouveau été glacée par l'appréhension. Elle l'aurait bien rappelé si elle n'avait pas redouté d'être ignorée. Et qu'aurait-elle pu lui dire? Prends-moi dans tes bras, embrasse-moi, offre-toi cette fille. Elle avait entendu ses pas s'estomper dans le couloir, la porte de leur chambre à coucher se fermait sèchement, puis le silence s'installait dans leur appartement. Le silence et la pluie qui ne cessait pas depuis un mois.
Merci Amira Khazar pour la lecture de ce premier extrait. On en entendra un deuxième tout à l'heure. Ian McEwan, on a parlé du droit au cœur de ce nouveau roman. Mais au cœur de ce nouveau roman, il y a non seulement ce personnage féminin, cette magistrate des affaires familiales, Fiona May, mais il y a, on l'a compris en entendant aussi le début du livre, un couple, c'est-à-dire le couple qu'elle forme avec son conjoint depuis de très longues années. Là encore, il s'agit pour vous d'un thème familier et récurrent, que ce soit dans The Child in Time, par exemple, ce roman dans lequel un couple devait faire face à des événements dramatiques, que ce soit sur la plage de Chesil Beach, dans lequel vous avez mis en scène la nuit de noces d'un couple. Cette configuration est extrêmement récurrente dans vos romans.
I think an intimate relationship.
Je pense qu'une relation intime
becomes a field of play.
Devient un terrain de jeu.
In which one can investigate.
Où chacun peut
human nature.
Faire une recherche sur la nature humaine.
I think of the novel as
Je
an instrument.
Je pense que le roman est un instrument.
A very finely made tool,
un instrument extrêmement élaboré,
that's evolved over 300 or 400 years,
qui a évolué au cours de 300 ou 400 siècles,
to investigate,
pour pouvoir faire une recherche, une enquête,
who we are, what we are,
qui sommes-nous, que sommes-nous,
how we are in this moment,
comment sommes-nous en ce moment,
living within the conditions of a city,
vivant au sein d'une ville,
this or that government.
Sous tel ou tel gouvernement,
this or that dispensation,
sous tel ou tel événement,
being in love and trying to stay in love,
étant amoureux et tentant de le rester,
and often failing,
et en échouant souvent,
and the manner in which we succeed or fail,
la façon dont on réussit ou dont on échoue,
opens up, I think, exactly what we are,
ouvre exactement et nous fait voir ce que nous sommes.
So, it's not for nothing that the novel has become the investigator.
Ce n'est pas pour rien que le roman est devenu l'enquêteur, la façon d'enquêter.
Of love and the end of
l'amour
love.
Et la fin de l'amour.
And this is what's so interesting about.
Et c'est ce qui est tellement intéressant dans
the family law.
Les lois de la famille.
So much of it is about love.
Eh bien,
and
il y en a tellement au sujet de l'amour et de la fin de l'amour.
Where no agreements can be reached.
Où aucun accord ne peut plus être atteint.
Especially about children.
Particulièrement en ce qui concerne les enfants.
And the parties agree to throw themselves,
et les parties s'accordent pour se lancer
on the rationality and compassion,
du point de vue de la rationalité et de la compassion
of a complete stranger.
En fait, qui se découvrent être des étrangers totaux l'un à l'autre.
A novel of the family law becomes.
Eh bien, un roman sur les lois de la famille.
A sort of turn of the screw.
Devient une sorte de tour d'écrou.
Something that the novel conventionally addresses.
De ce que le roman, ce dont le roman s'occupe habituellement.
Alors, je disais le couple, mais en fait, plus fréquemment encore, c'est la question, effectivement, de la famille qu'on trouve dès le début de votre œuvre. Le premier roman, Le Jardin de Simon, The Simon Garden, raconte l'histoire d'une fratrie qui devient orpheline. Et là encore, on trouve la présence des services sociaux à l'enfance qui joue un rôle dans votre nouveau roman, L'intérêt de l'enfant. Dans plusieurs de vos romans, il y a cette idée de la protection de l'enfant, du danger qui guette l'enfant à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur de la famille. Comment expliquez-vous que ce thème soit à ce point présent dans votre travail? Pas tous les romans, mais bon nombre d'entre eux.
Well, I'd completely forgotten the cement garden. It's,
j'ai complètement oublié le jardin de ciment.
40 years ago.
Ça fait 40 ans.
Almost.
Quasiment.
Well, we cannot live in isolation.
Oui, on ne peut pas vivre dans l'isolement.
And in the cement garden.
Et dans le jardin de ciment.
In which Actually, Charlotte Gainsbourg plays a brilliant part.
Charlotte Gainsbourg joue un rôle important, d'ailleurs.
Adapté par Andrew Birkin.
Oui, par Andrew Birkin, exactement.
The most faithful adaptation of any of my novels.
L'adaptation la plus fidèle de mes romans.
And one I have a very special feeling for.
Et pour laquelle j'ai vraiment un sentiment extrêmement agréable.
This is really the investigation of a family
c'est
without parents.
Une enquête sur une famille sans parents.
So, how does the third act conclude? It has to include with the world pouring in.
Eh bien, comment se conclut le dernier acte? Eh bien, il faut absolument que le monde s'engouffre là.
A blue light is flashing, is reflected
une
on
lumière
the
bleue
ceiling,
se reflète sur le plafond.
Where the children are huddling together.
C'est où les enfants sont collés les uns aux autres.
Having their social order having broken down.
Et leur ordre social a été complètement détruit.
And only briefly off stage is the world of adults about.
De temps en temps, hors de la scène, il y a le monde des adultes.
So I'm not sure I ever wrote another novel remotely like that.
Je n'ai pas écrit un autre roman semblable à celui-là, en dépit de ce que vous avez dit.
With a mother dead in a case of cement in the basement.
Mère se retrouve enterrée dans un coffre en ciment dans le sous-sol.
I'm a little at a loss to think how this is a
un peu désemparé face à cette question de thème récurrent.
Là, on a la situation inverse. Dans Simon Garden, nous avions un groupe d'enfants dont les parents ont disparu. Et là, vous mettez en scène un couple qui n'a pas d'enfants. Et c'est une chose importante dans la tension narrative aussi de ce roman.
It's very important that,
c'est très important
that Fiona,
le fait que
has not decided
against Fiona
having children.
N'est pas décidé de ne pas avoir d'enfants.
It's just that
c'est simplement
the time
que
and busyness,
le temps, les occupations l'ont submergé.
And that is why she is filled
et
with
c'est la raison pour laquelle elle est
a constant regret.
Empli d'un regret constant.
In the eyes of her mother,
aux yeux de sa mère,
she is not a complete woman.
Ce n'est pas une femme complète, pour l'instant.
To the eyes of myself or anyone else,
et à mes yeux, et aux yeux de beaucoup d'autres personnes, bien sûr qu'elle l'est.
But this is the emotional background.
Accomplie, complète. Mais c'est voilà, l'arrière-plan émotionnel
with which she confronts
auquel elle est confrontée.
A young Jehovah's Witness boy,
un jeune témoin de Jéhovah.
Who desperately needs to be
qui a besoin absolument de,
who's refusing
d'aide, qui doit avoir une transfusion sanguine, qui la refuse,
whose parents are refusing it,
dont les parents refusent qu'il ait cette transfusion sanguine.
And the hospital has come to Fiona,
et l'hôpital est venu vers Fiona
to get her permission,
pour obtenir son autorisation
to treat the boy
pour
against,
traiter l'enfant
the family's wishes.
Contre la volonté de ses parents.
And at this point, again, here
et
is the
là,
external world.
Voilà le monde extérieur qui arrive.
The secular law confronts
la loi laïque
devout, sincerely
qui
held,
fait face à des croyances et une foi absolument sincère.
The bond that Fiona forms with this
le
boy,
lien que forge Fiona avec cet enfant,
which is largely unspoken,
qui est dans le non-dit,
is precipitated by music and poetry.
Est précipité en quelque sorte comme dans une
this boy who's had
par la musique.
The boy's had a very restricted background.
Vous savez que le garçon a eu une formation extrêmement mince.
Filled with religious instruction.
Rempli d'instructions religieuses.
Suddenly finds
et soudain,
another form of transcendence.
Il découvre une autre forme de transcendance.
In the poetry of Yeats,
dans la poésie de Yeats
and in music.
Et dans la musique.
And sees in Fiona a form
et
of salvation.
Il voit en Fiona une forme de rédemption.
And the tragedy I want to reach is that
et
Fiona
la tragédie que je veux décrire, c'est que Fiona
refuses him.
Le refuse, le repousse.
Even though it's the thing that she most wants.
Même si c'est la chose qu'elle désire le plus.
Where does our responsibility to others finish?
Où se termine notre responsabilité envers les autres?
So this was my main. This is the heart, I suppose.
En fait, c'est le cœur de ce roman, je suppose.
La musique joue un rôle très important dans ce livre. Vous montrez à quel point Fiona être habitée par la musique au point de jouer pour elle-même, dans sa tête, des morceaux qu'elle connaît par cœur. Quelle est votre relation personnelle à la musique ? Est-ce que vous fonctionnez comme ça ? Est-ce que vous aussi, vous entendez cette musique ? Est-ce que vous la pratiquez ? Et comment vous avez choisi la playlist de ce roman, les morceaux qui figurent dans le roman ?
I'm one of those many millions of people
who, je fais partie de ces millions de gens
wake in the middle of the night
qui se réveillent au cœur de la nuit
wish I'd continued my piano lessons.
Et qui se disent, oh, j'aurais tellement aimé continuer mes leçons de piano.
My only compensation,
ma seule compensation
is to be a good listener.
C'est d'être un bon auditeur.
So I share Fiona's passion.
Donc je partage la passion de Fiona pour la musique,
but not her capabilities.
Mais pas ses capacités.
It's a minefield to put music in a novel.
Vous savez, c'est un terrain miné de placer de la musique dans un roman.
The world is full of separate communities of music.
Le monde est plein de communautés séparées dans le domaine musical.
There are perfectly sensible, intelligent people.
Il y a des gens parfaitement intelligents et sensibles
who hear nothing but pop music.
Qui n'écoutent rien d'autre que la pop.
There are people who only hear classical music.
Il y a des gens qui n'écoutent que de la musique classique.
Who are complete monsters.
Qui sont des monstres absolus.
There is no moral quality.
Il n'y a
here
pas de qualité morale là-dedans.
We know that camp guards in Auschwitz.
Nous savons que les gardiens du camp d'Auschwitz
got the inmates to play Bach and
Beethoven. Faisaient jouer aux prisonniers Bach et Beethoven.
But to put music in a
Mais
novel,
mettre de la musique dans un roman,
you cannot depend on any community.
On ne peut pas être dépendant d'une communauté quelconque.
So it's more the idea of music.
Donc c'est plus l'idée de musique.
The idea of a character's relationship.
L'idée d'une relation d'un personnage avec la musique.
So that's why the opening.
C'est la raison pour laquelle
of this young boy,
l'ouverture de ce jeune homme
takes place while he sits in his hospital bed,
a lieu au moment où il est sur son lit d'hôpital.
Playing his violin.
Il joue du violon.
Which he's only just started to learn.
Qu'il ne vient que de commencer à apprendre,
even though he thinks he's going to die.
Même s'il pense qu'il va mourir.
So the music is more important,
donc la musique est plus importante
where it places itself in our life,
là où elle se place dans notre vie,
than whether it's Bach or,
plutôt que ce soit du Bach
or the Beatles
ou
or whatever.
Les Beatles ou quoi que ce soit d'autre.
La musique donc, mais aussi la poésie qui est l'autre manière pour Fiona d'entrer en communication, au sens fort du mot, avec ce jeune garçon qui a commencé à écrire sur son lit d'hôpital des poèmes. Moi, je voudrais que vous nous disiez quelle relation vous avez à la poésie. Je sais à quel point ça a été important pour vous quand vous avez commencé la littérature. Vous faites partie d'une génération d'écrivains britanniques qui place la poésie au-dessus de tout. Je pense que c'est le cas de Martin Amis, qui a souvent répété que pour lui, c'était le genre suprême au-dessus du roman. Des gens de votre génération, comme James Fenton ou Craig Raine, ont écrit de la poésie. Quel rapport vous entretenez à cette forme ? Est-ce que vous la considérez toujours comme la forme suprême ? Est-ce que vous vous y êtes vous-même essayé ? Est-ce que vous en lisez régulièrement ?
Well, Martin and I used to meet regularly.
Eh bien, Martin Amis et moi-même, nous nous rencontrions souvent.
In our 20s,
lorsque nous avions une vingtaine d'années.
And spend a lot of time celebrating.
Et nous avons passé beaucoup de temps
the poetry that we love.
Célébrer les poésies que nous aimions.
And I think we agree on this that.
Je crois qu'on est d'accord sur ce point-là.
Poetry is the.
La poésie.
Senior service.
C'est vraiment. Comment dire, l'art suprême, d'une certaine manière.
Once you're launched on a life as a novelist,
une fois que vous avez commencé votre carrière en tant que romancier,
it's improper to pretend you could ever write poetry.
On ne peut plus dire qu'on est ou qu'on a été poète.
You might write the pastiche, but,
on peut écrire des pastiches.
You have to be a to be a serious poet, you have to
pour être un véritable poète, il faut s'immerger complètement.
It is probably the most intense,
c'est probablement
precise, elevated.
C'est l'expression la plus intense, la plus élevée, la plus complète que nous puissions avoir.
And prose writers can only be jealous.
Et les écrivains de prose ne peuvent qu'en être jaloux.
Our only, compensation is,
notre seule compensation,
that we live better than the
c'est
poets.
Que nous vivons, notre vie est meilleure que celle des poètes. Nous vivons mieux que les poètes.
But poetry remains very important for me.
La poésie demeure très importante pour moi.
Like most people who've read poetry, bits of it are always floating.
Vous savez, comme tous les gens qui ont lu la poésie,
misremembered,
il y en a des strophes qui voyagent dans mon esprit.
It's rather like the music of your teens.
C'est un peu comme la musique de votre adolescence.
No other music is ever going to sound as good.
Donc une autre musique ne sonnera aussi bien que la musique que vous avez entendue pour la première fois lorsque vous aviez 17 ans. Et je crois que les poètes que j'ai lus à cette époque-là, tout comme la musique, sont ceux qui, en fait, ont meublé mon esprit.
Et puis, il peut y avoir aussi une certaine dimension poétique dans un roman, et je ne pense pas au poème du jeune Adam qu'on trouve là, mais plutôt à certaines lignes que vous consacrez à, en quelque sorte, un autre personnage de ce roman, qui est la ville de Londres. Et vous restituez là certains quartiers bien précis de Londres, ceux qui sont dédiés à la pratique du droit, puisque cette ville est encore organisée d'une certaine façon autour des métiers. Mais aussi, quand on traverse la Tamise, par exemple, il y a là une expérience très forte. En quelques mots, on peut dire, après tout, que c'est de la poésie aussi d'écrire comme ça dans un roman, Ian McEwan.
When Fiona gets in a taxi,
quand Fiona monte dans un taxi
to cross London,
pour traverser Londres,
leaving the court behind,
en laissant le tribunal derrière elle,
to talk to Adam in his
pour
bed,
parler à Adam sur son lit d'hôpital,
She confronts a view which has been,
elle est face à une vue
celebrated by,
qui a été célébrée par
Wordsworth.
Wordsworth.
The very opening,
le tout
two
début,
lines of this
les
novel
deux premières lignes de ce roman sont
of,
une citation directe
of Dickens.
De Dickens.
Dickens, is the great poet of London.
Dickens est le grand poète de Londres.
And Bleak House is the great
novel.
Et
Bleak House, c'est le
the law.
Grand roman de la loi.
London, like Paris, like
Londres,
Venice,
comme Paris, comme Venise,
is a city saturated in its literature.
Sont des villes saturées de littérature.
There are many corners of it where you can stand.
Il y a beaucoup de coins où on peut se tenir dans ces
and
villes
see what,
et voir
what Wordsworth saw,
ce que Wordsworth a vu.
Even what Shakespeare saw.
Même ce que Shakespeare a pu voir.
Not quite the buildings. We had a big
peut-être
fire.
Pas les bâtiments, on a eu un grand incendie au XVIIe siècle.
But still it's been,
mais l'esprit est toujours là.
I started life as a sort of existential novelist.
J'ai commencé ma vie comme une sorte d'écrivain existentialiste.
I thought it was cheating to name
je
the
pensais
place
que
where my characters
c'était
were.
Une tromperie, en fait, de citer les endroits où se trouvaient mes personnages.
Venise, par exemple.
Venise, anywhere.
À n'importe où.
I thought it was cheating to name
je crois que
time,
c'était. Il ne fallait pas décrire quelle était la date, dire quelle était la date.
I thought it was cheating to
je crois que c'était tromper les lecteurs que de dire.
Describe the thoughts of my characters.
Décrire les pensées de mes personnages.
I think Rob Grier was something
je crois
to blame
que
for this.
Rob Grier doit emporter le blâme.
And various other existential novelists.
Vous savez, je ne suis plus un écrivain existentialiste.
And my writing life has been
et ma vie d'écrivain
slow escape from
a été échappée lente de cette notion très restrictive de ce que pouvait être un roman. Je veux que les endroits puissent être sentis au sens fort, qu'on sente l'odeur de l'endroit dans mon livre. Je veux les noms, je veux les dates, je veux le sentiment, les sensations de la rue.
Whether it's progress or regress,
que c'est un progrès ou une régression, c'est sujet à
biography.
Qui sera traité dans ma biographie de mon esthétique.
En tout cas, c'est très réussi, parce que quand vous nous amenez dans l'autre ville qu'on trouve dans ce roman, Newcastle upon Tyne, au nord de l'Angleterre, c'est la Newcastle Brown Ale qu'on a en tête immédiatement, cette bière très typique de cette ville traversée par un pont de fer et de béton.
Well, as we speak, there are more than 400,000 French people in London.
Eh bien, pour l'instant, au moment même où nous parlons, il y a plus de 400 000 Français qui se trouvent à Londres.
And they're missing a great opportunity with
et qui
Newcastle.
Ratent une excellente occasion d'être à Newcastle.
It's like a foreign country.
C'est comme un pays étranger.
Just a 4-hour train ride away.
Ben, c'est simplement 4 heures de train.
Alors là, pour le moment, on va simplement traverser la Tamise et Fiona May a rencontré à l'hôpital ce jeune garçon qui lui a lu des poèmes. Ils ont ensemble interprété une ballade irlandaise, lui au violon et elle chantant. Et puis, nous avançons progressivement jusqu'au chapitre 4 de ce roman, dans lequel on trouve notamment une lettre envoyée par ce jeune garçon Adam Henry à Fiona May. Amary Cazar va nous lire le début du chapitre 4 de l'intérêt de l'enfant.
Elle avait l'impression que les faits ne corroboraient pourtant pas, qu'à la fin de l'été 2012 en Grande-Bretagne, le nombre de divorces, de séparations et le désarroi afférent montait comme une monstrueuse marée d'équinoxe, emportant des familles entières, dispersant les biens et les projets d'avenir, noyant ceux qui ne possédaient pas un instinct de survie suffisamment solide. Les serments d'amour éternel étaient rompus ou réécrits. Des compagnons, jusque-là faciles à vivre, se transformaient en adversaires retors, tapis derrière leur avocat, indifférents aux coûts financiers. On se disputait âprement les objets domestiques auparavant délaissés. La confiance, qui était longtemps allée de soi, se voyait remplacée par des arrangements rédigés avec soin. Dans l'esprit des intéressés, l'histoire de leur couple devenait celle d'un mariage qui devait mal finir. L'amour, une illusion trompeuse. Et les enfants, des pièces sur un échiquier, utile monnaie d'échange pour les mères, objets de désintérêt affectif et financier pour les pères, prétexte à des accusations de maltraitance, qu'elles soient réelles, fantasmées ou cyniquement inventées, souvent par les mères, parfois par les pères, des gosses ahuris qui faisaient chaque semaine la navette entre deux maisons dans le cadre d'une garde alternée, l'égarement de trousses ou de manteaux dont les avocats rejetaient d'une voix perçante la responsabilité sur la partie adverse, et l'argent. Les demi-vérités et le code de procédure représentaient la nouvelle unité de compte. Des maris cupides contre des épouses cupides qui négociaient comme des nations à la fin d'une guerre, arrachant aux ruines toutes les dépouilles possibles avant la capitulation finale. Des hommes qui dissimulaient leurs avoirs sur des comptes à l'étranger. Des femmes exigeant qu'on les mette à vie à l'abri du besoin. Des mères qui empêchaient leurs enfants de voir leur père. Des pères qui ne versaient pas la pension alimentaire malgré les ordonnances du juge dans les deux cas. Des maris qui battaient leurs femmes et leurs gosses. Des épouses qui mentaient et crachaient leur venin. L'une ou l'autre partie, ou les deux, alcooliques, toxicomanes ou psychotiques. Et les enfants, encore et toujours contraints de s'occuper d'un parent défaillant. Des gamins réellement victimes de violences sexuelles, morales ou les deux. Les preuves de ces violences montraient sur écran à la cour. Et or, la compétence de Fiona dans les affaires relevant du droit pénal plutôt que de celui de la famille, d'autres enfants, torturés, affamés ou battus à mort pour chasser les mauvais esprits lors des rituels animistes. De jeunes beaux-pères sadiques brisant les os des bébés sous l'œil des mères. Et la drogue, la boisson, les logements d'une saleté repoussante, l'indifférence des voisins frappés de surdité sélective face aux cris. L'absence d'intervention des travailleurs sociaux, négligents ou débordés. La chambre des affaires familiales avait du travail. Seul le hasard des listings informatiques faisait que Fiona se retrouvait à traiter tant de conflits conjugaux. C'était une pure coïncidence qu'elle-même en vive un. Dans sa spécialité, on voyait rarement des gens en prison. Et pourtant, elle se disait, à ces moments perdus, qu'elle aurait bien fait enfermer tous ces individus qui voulaient, au détriment de leurs enfants, une femme plus jeune, un mari plus riche ou moins ennuyeux, une banlieue plus résidentielle, un nouveau partenaire, un nouvel amour, une nouvelle vision du monde, un nouveau départ avant qu'il ne soit trop tard. La simple poursuite du plaisir. Une morale kitsch. Son statut de femme sans enfant et l'état de ses relations avec Jack avaient une incidence sur ses scénarios. Et bien sûr, elle n'y croyait pas elle-même. Malgré tout, elle gardait enfoui au plus profond de son espace mental privé, mais sans le laisser influer sur ses décisions, un mépris puritain pour ces hommes et ces femmes qui détruisaient leur famille et voulaient se convaincre qu'ils agissaient pour le bien de tous. Ces spéculations n'épargnaient pas les individus sans enfants, du moins pas Jack. Des travaux d'intérêt général pour expier le sacrifice de leur couple à l'attrait de la nouveauté, pourquoi pas? Car depuis son retour, la vie dans l'appartement de Grayson était silencieuse et tendue. Il y avait eu des disputes durant lesquelles elle avait déversé une partie de son amertume. 12 heures plus tard, ce sentiment était renouvelé avec autant de ferveur que des vœux de mariage. Rien ne changeait, rien ne détendait l'atmosphère. Et se sentirait toujours trahi. Jack pimentait ses excuses de griefs anciens, lui reprochant de l'avoir mise à l'écart, critiquant sa froideur. Tard un soir, il avait même déclaré qu'elle n'était pas drôle et avait perdu le sens de la fête. De toutes ces accusations, ce fut celle qui l'atteignit le plus, car elle en percevait la justesse. Mais cela ne diminuait en rien sa colère. Au moins, il ne disait plus qu'il l'aimait. Leur dernier échange en date, 10 jours plus tôt, reprenait tous leurs propos antérieurs. Chaque réplique, chaque formule choc, longuement ressassée. Et très vite, il avait battu en retraite, fatigué l'un de l'autre comme d'eux-mêmes. Depuis, rien. Ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes, remplissaient leurs obligations en deux endroits différents de la ville. Et quand ils se retrouvaient confinés dans leur appartement, ils s'appliquaient à ne pas se marcher sur les pieds, tels des danseurs dans un bal populaire. Lorsqu'il fallait régler un problème domestique, c'était en peu de mots, et ils rivalisaient de courtoisie. Ils évitaient de prendre leur repas ensemble. Ils se dérobaient à toutes les invitations adressées à leurs deux noms. Unique geste de conciliation, elle lui avait donné une nouvelle clé. Elle déduisait de ses remarques évasives et maussades que la chambre de la statisticienne ne lui avait pas ouvert les portes du paradis. Pas si rassurant, en fait. Il tenterait sûrement sa chance ailleurs. Peut-être l'avait-il même déjà fait, libéré cette fois des contraintes affligeantes de l'honnêteté. Lorsqu'une nièce de celui-ci déposa ses filles pour le week-end, deux vraies jumelles de 8 ans, les choses devinrent plus faciles. L'appartement parut plus grand, puisque leur attention se portait ailleurs. Jack passa 2 nuits sur le canapé du salon, sans que les jumelles posent de questions. C'étaient des fillettes bien élevées, à l'ancienne mode, sérieuses et proches l'une de l'autre, ce qui n'excluait pas une dispute explosive à l'occasion. L'une ou l'autre, on pouvait les distinguer facilement, venait trouver Fiona quand elle lisait, se plantait devant elle et, posant spontanément la main sur le genou de sa tante, donnait libre cours à un flot cristallin d'anecdotes, de réflexions, de rêveries. Fiona racontait à son tour quelques histoires. Par 2 fois, au cours de leur visite, tandis qu'elle parlait, une bouffée de tendresse pour la jumelle près d'elle lui serra la gorge et lui fit monter les larmes aux yeux. Elle se sentit vieille et ridicule. Se voir rappeler que Jack s'entendait si bien avec les enfants la contraria. Mais le dimanche soir, une fois les jumelles reparties, les pièces rétrécirent. L'appartement sentait le renfermer et Jack sortit sans explication, sûrement signe d'hostilité. Peut-être pour un rendez-vous galant, se disait-elle en rangeant la chambre d'amis pour s'occuper et empêcher son moral de chuter davantage. Tandis qu'elle remettait les peluches dans leur panier d'osier, récupérait les perles de verre et les dessins abandonnés sous le lit, elle se sentit enveloppée par ce chagrin discret, une forme de nostalgie instantanée que l'absence soudaine des enfants peut susciter. Ce sentiment se prolongea jusqu'au lundi matin où il se transforma en une tristesse généralisée qui l'accompagna durant son trajet à pied pour aller travailler. Et ne s'estompa pas lorsqu'elle s'assit à son bureau pour préparer sa première affaire de la semaine. Nigel Pauling avait dû apporter le courrier à un moment ou à un autre, car elle découvrit soudain la pile près d'elle. À la vue d'une petite enveloppe bleu clair sur le dessus, elle faillit rappeler son greffier pour qu'il l'ouvre. Elle n'était pas d'humeur à lire un nouveau déluge d'insultes mal orthographiées ou des menaces de violence. Elle se replongea dans son travail, mais impossible de se concentrer. L'enveloppe trop petite, l'écriture ronde, l'absence de code postal, le timbre collé de travers, elle avait trop souvent vu cela. Mais quand elle regarda de plus près et remarqua le cachet de la poste, Elle eut un doute, soupesa quelques instants l'enveloppe et l'ouvrit. Aussitôt, la formule de début lui donna raison. Elle attendait vaguement cette lettre depuis des semaines. Elle avait parlé à Marina Green et appris qu'il allait beaucoup mieux, était sorti de l'hôpital, faisait chez lui ses devoirs en retard, devait retourner en cours dans un mois ou deux. Trois feuilles bleu clair, écrites recto verso, sauf la dernière d'un seul côté. En haut de la première page, au-dessus de la date, le chiffre 7 entouré d'un cercle. « My lady, c'est ma 7e lettre et je pense que c'est celle-ci que je vais poster. » Les tout premiers mots du paragraphe suivant avaient été raturés. « Ce sera la plus simple et la plus courte. J'ai juste un événement à vous raconter. Je me rends maintenant compte de son importance. Il a tout changé. Je suis content d'avoir attendu, parce que je n'aimerais pas que vous voyiez les autres lettres trop gênants. Mais pas autant que les injures dont je vous ai couverte quand Donna est venue m'annoncer votre décision. J'étais sûre que vous partagiez mon point de vue. D'ailleurs, je me souviens exactement de ce que vous m'avez dit, qu'il était évident que je savais ce que je voulais, et je me rappelle vous avoir remercié. J'étais encore dans tous mes états, en train de vociférer quand cet horrible spécialiste, Mister Appelez-moi Rodney, Carter, est entré avec une demi-douzaine de soignants et le matériel. Il croyait qu'il allait falloir m'immobiliser de force, mais j'étais trop faible pour que ce soit nécessaire. Et malgré ma colère, je savais ce que vous attendiez de moi. J'ai donc tendu le bras et ils ont commencé. À l'idée que le sang de quelqu'un d'autre se mélangeait au mien, j'ai été tellement dégoûtée que j'ai vomi partout sur le lit. Mais ce n'est pas cela que je voulais vous dire. Voilà, comme ma mère ne supportait pas ce spectacle, elle était assise à l'extérieur de ma chambre. Je l'entendais pleurer et me sentais vraiment triste. Je ne sais pas à quel moment mon père est arrivé. Je crois que je me suis évanouie quelque temps. Et quand j'ai repris connaissance, ils étaient ensemble à mon chevet. Ils pleuraient tous deux. Je me suis sentie encore plus triste parce que nous avions tous les trois désobéi à Dieu. Mais le plus important, c'est que je ne me suis pas tout de suite aperçue qu'en fait, ils pleuraient de joie. Ils étaient si heureux, me prenaient dans leurs bras, s'étreignaient, louaient Dieu en sanglotant. J'avais une impression très bizarre et je n'ai pas pu me l'expliquer avant un ou deux jours. Je n'y pensais même plus. Et soudain, tout était clair. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Je n'avais jamais compris ce dicton. Et là, si. On a encore l'argent dans une main. Et dans l'autre, le beurre qu'on vient d'acheter. Mes parents ont suivi les enseignements de notre église, obéi aux anciens, fait tout ce qu'il fallait. Ils peuvent s'attendre à être accueillis au paradis sur terre. Et en même temps, ils peuvent m'avoir vivant, sans qu'aucun de nous ne soit excommunié. Transfusé. Mais ce n'est pas notre faute. C'est celle de cette juge, de ce système athée, de ce que nous appelons parfois le monde. Quel soulagement! Nous avons encore notre fils, même si nous avons dit qu'il devait mourir, notre fils, l'argent du beurre. Je n'arrive pas à savoir ce que je dois en penser. Est-ce qu'il s'agit d'une imposture? Pour moi, ça a représenté un tournant. Je résume. Quand on m'a ramené chez moi, j'ai sorti la Bible de ma chambre. Symboliquement, je l'ai posée à l'envers sur une chaise dans le couloir. J'ai annoncé à mes parents que je ne mettrais plus les pieds dans la salle du royaume et qu'ils pouvaient m'excommunier tant qu'ils le souhaitaient. On a eu des disputes terribles. Monsieur Crosby est venu tenter de me raisonner. Aucune chance. Je vous ai écrit parce qu'il fallait vraiment que je vous parle. J'ai besoin de votre esprit lucide pour discuter de tout cela. J'ai l'impression que vous m'avez permis de m'approcher d'autre chose, quelque chose de réellement beau et profond. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Vous ne m'avez jamais dit en quoi vous croyez. mais j'ai adoré votre visite lorsque vous êtes resté à mon chevet et que nous avons interprété « The Sally Gardens ». Je lis encore ce poème chaque jour. J'aime bien être jeune et sans cervelle. Et sans vous, je ne serais ni l'un ni l'autre. Je serais mort. Je vous ai écrit plein de lettres stupides. Je pense sans cesse à vous. Je voudrais vraiment vous revoir et parler avec vous. J'échafaude des projets pour nous, de merveilleux rêves impossibles comme faire le tour du monde ensemble en bateau. On aurait des cabines contiguës et on se promènerait toute la journée sur le pont en bavardant. S'il vous plaît, répondez-moi, my lady. Juste quelques mots pour dire que vous avez lu cette lettre et que vous ne m'en voulez pas de l'avoir écrite. Bien à vous, Adam Henry. P.S. J'ai oublié de dire que je reprends des forces chaque jour. Elle ne répondit pas, ou plutôt ne posta pas le mot qu'elle avait mis presque une heure à rédiger le soir même. Sa quatrième et ultime version lui avait paru assez amicale. Elle s'y réjouissait d'apprendre qu'il était rentré chez lui et se sentait mieux, qu'il gardait un excellent souvenir de cette visite. Elle lui conseillait d'être un bon fils pour ses parents. Il était normal, à l'adolescence, de remettre en cause les croyances avec lesquelles on avait grandi. Mais il fallait le faire avec respect. Elle terminait en disant, bien que ce ne fût pas vrai, que l'idée d'un tour du monde en bateau l'avait titillée. Elle ajoutait que, dans sa jeunesse, elle avait exactement les mêmes rêves d'évasion que lui. Ce n'était pas vrai non plus, car elle était trop ambitieuse. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à sa courte lettre le lendemain matin, ce ne fut pas son caractère amical qui l'impressionna, mais sa froideur, ce conseil de pure forme, ses trois tournures impersonnelles dans la phrase suivante, ce souvenir fabriqué. Elle relut celle d'Adam Henry et fut à nouveau touchée par son innocence et sa chaleur. Mieux valait ne rien envoyer du tout que le décourager. Si elle changeait d'avis, elle pourrait toujours écrire plus tard. Le moment approchait où elle serait en déplacement dans plusieurs villes anglaises, où siégeaient autrefois les anciennes cours d'assises, en compagnie d'un autre juge, spécialiste de droit pénal et de droit civil. Elle entendrait des plaignants qui auraient dû, sinon, se rendre au palais de justice de Londres. Elle résiderait dans des logements entretenus à cet effet, des demeures présentant un intérêt historique et architectural, avec, dans certains cas, une cave fabuleuse et une gouvernante qui serait, selon toute vraisemblance, une bonne cuisinière. La coutume voulait que l'on soit convié à un dîner donné par le shérif, le représentant de la couronne dans le comté. Puis, elle et son collègue rendraient l'appareil dans leur résidence sur place, inviteraient les notables et les personnalités intéressantes. Il fallait faire la distinction de la commune. Les chambres étaient bien plus cossues chez elle, les lits plus larges, le linge de la maison plus raffiné. À une époque plus heureuse, il y avait pour une femme mariée un plaisir coupable et sensuel à disposer d'une chambre à soi. Là, elle rêvait d'échapper à son pas de deux silencieux et solennel avec Jack. Et la première étape était sa ville anglaise préférée.
Ville anglaise de Newcastle, donc, où le roman se déplace. On a peu parlé, pour l'instant, Ian McEwan, de la place centrale, on vient de l'entendre dans le courrier d'Adam Henry, de la religion. Là, on a affaire à une famille de témoins de Jéhovah. Il y a donc une réflexion dans ce roman et autour de la façon dont le droit britannique gère, au fond, la religion, qui est très intéressant d'un point de vue français, parce qu'en France, on pense toujours qu'on a inventé la laïcité, même si les Américains l'ont fait un siècle avant, et qu'on est probablement le seul pays à avoir un droit qui gère ses relations. Il n'en est rien, et les exemples que vous donnez sont passionnants. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter de ce sujet? Est-ce que c'est la place de la religion dans nos sociétés aujourd'hui pour quelqu'un qui est aussi rationaliste que vous l'êtes, Ian McEwan?
Well, I guess my starting point would be that,
je pense que le point de départ,
religion is not a good guide.
C'est que la religion n'est pas un bon guide
to a moral behavior.
Pour un comportement moral.
Good Christians,
des bons chrétiens,
take from the Bible what they want.
Peuvent tirer de la Bible ce qu'ils souhaitent.
And leave aside.
Et laisser de côté.
Genocide, enslavement,
génocide, murder, esclavage, le meurtre.
Everything we associate with ISIS.
Tout ce que on associe à Daesh, en fait.
That seems to be endorsed by.
Qui semble être.
The God of the Old Testament.
Appuyé ou soutenu par le Dieu de l'Ancien Testament.
So what is the moral code at work?
Donc, quel est le code moral
there must be a dominant,
au travail? Il doit y avoir
higher case code,
un code qui soit encore plus élevé, un niveau plus élevé.
Despite the protestations of Christians,
en dépit des protestations des
they
chrétiens,
must have a higher code than,
il doit y avoir un code encore plus élevé
than God himself.
Que Dieu lui-même.
And I think it is basically a secular.
Et je pense en fin de compte que c'est une question laïque.
The English law,
la loi
is
anglaise,
generally respectful of religion,
respecte généralement les religions,
but takes no view.
Mais ne prend pas parti.
My interest in this is really
mon intérêt, c'est
try and establish, well,
essayer d'établir.
What is the moral basis of a rational,
quelle est la base morale d'une loi laïque?
I think it has two important elements.
Je crois qu'elle doit avoir deux éléments importants.
One is its rationality.
Tout d'abord, c'est sa rationalité, sa logique.
And one has to be its compassion.
Et aussi, le deuxième point, c'est la compassion.
And by the way, we're talking of law in an ideal sense.
On parle de la loi au sens idéal du terme.
Law often falls short.
Vous savez, la loi est vraiment loin de remplir ses conditions.
When the law asks itself, what are the interests of a child, or
quand la loi se pose la question, quel est l'intérêt de l'enfant?
Or what is the essence of any moral decision?
Ou quelle est l'essence de toute décision morale?
There has to be a consideration of the well-being.
Il doit y avoir une prise en compte du bien-être.
Or the greatest distribution of well-being.
Ou la meilleure distribution de bien-être.
And there has to be a
strong element of un élément fort.
What is the decision that will convey the greatest mental freedom?
Ce que devrait être la décision qui donnerait le plus de liberté mentale aux autres.
So well-being within the context.
Le bien-être en contexte
of our relationships with each other,
de nos relations les uns avec les autres.
And this sense of,
et ce sentiment de
what are the decisions that allow us,
quelles sont les décisions qui permettent aux autres d'avoir cette liberté mentale que nous souhaitons pour nous-mêmes. Ce roman n'est pas une attaque contre la religion. C'est plus quelque chose qui exprime ce dont on a besoin dans nos lois laïques. Pour créer les fondations d'un code moral, ou de code moral au pluriel. Donc inévitablement, il y aura des clashs. Et dans ce cas, la loi va au-dessus et au-delà de la foi qu'ont les gens. Ce n'est pas l'intérêt d'un enfant d'être mort.
Je vous ai présenté à l'instant comme rationaliste, Ian McEwan. J'ai souligné tout à l'heure votre intérêt pour la science, mais je crois que c'est un sujet qui vous a, au fil du temps, de plus en plus intéressé, ce rationalisme, et notamment dans les discussions que vous avez pu avoir avec un autre de vos amis que je n'ai pas encore cité ici, qui est Christopher Hitchens, qui est mort il y a quelques années et qui avait écrit l'un de ses derniers livres sur Dieu, contre Dieu, d'une certaine façon, dans une position athée extrêmement forte et militante. Je sais aussi que vous êtes en dialogue avec un scientifique comme le biologiste Richard Dawkins, qui enseigne à Oxford et qui défend dans l'espace public britannique ses positions rationalistes très très fortes. Êtes-vous plutôt en accord avec ce type de position ?
I'm not as active as Christopher
je ne suis pas
was,
aussi militant que l'était Christopher
or Richard is.
Ou que Richard l'est actuellement.
I don't want to waste my life,
je ne veux pas perdre mon temps, perdre ma vie
worrying about religion.
À me battre contre la religion.
I'm much more interested in,
je suis beaucoup plus intéressé par
trying to make something warm-blooded,
tenter de faire quelque chose qui ait du sang chaud. Hors de la rationalité.
It's full of splendid things. It's not
c'est
a
plein
cold,
de choses splendides, hein. C'est pas
abstract thing.
Quelque chose de froid et d'abstrait.
And that's why my important second
c'est
element
ça
in the law
que le second élément que j'ai
compassion.
Cité de la loi doit être effectivement la compassion.
Religious people sometimes say,
les gens religieux
life
disent parfois que
without religion is a life without,
une vie sans religion, c'est une vie sans transcendance.
Well, I think there are plenty
je crois que
of sources
il y a plein de sources de transcendance
without the supernatural.
Sans le surnaturel.
Love, obviously.
L'amour, bien entendu.
Landscape.
Les paysages.
Food, wine, of course.
La nourriture. Le vin, évidemment, puisqu'on est en France.
But above all,
mais par-dessus tout,
the pleasures of
les plaisirs de l'art.
Of poetry, literature,
la poésie,
painting,
la littérature,
the whole panoply
la peinture,
of,
toute la panoplie
of what we create,
de ce que nous créons
both to give pleasure to each other,
pour nous donner du plaisir
and search for meaning in
et
our
une recherche d'un sens dans notre existence.
So we still get a thrill, even,
donc on a quand même
no,
des frissons agréables même si on n'a pas de désir de surnaturel
at the sight of a great cathedral,
devant ou à la vision d'une énorme, d'une belle cathédrale,
because it's a work of art,
parce que c'est une œuvre d'art,
or on hearing the B minor
ou en écoutant la messe en si mineur, qui était vraiment pour tous les artistes quelque chose d'extraordinaire.
We can have it without the tooth fairy.
Et on peut l'avoir sans avoir cette foi en surnaturel.
L'air du temps et la situation peut-être historique, diraient certains, auraient pu vous conduire à choisir vos exemples religieux pour ce roman plutôt du côté des musulmans et de l'islam. On a vu que vous l'avez fait chez les témoins de Jéhovah. J'imagine que c'est un choix de votre part, d'autant que l'islam vous concerne également. Je rappelle juste que vous avez été celui qui... 14 ou 15 février 1989 a caché Salman Rushdie dans une maison des Cotswolds, il le raconte dans Joseph Anton, et que depuis cette date au moins de février 89, cette question vous intéresse et vous inquiète à certains égards.
Yes, I mean I've spoken about it in many public
oui, j'en ai forums. Parlé dans divers endroits publics, oui.
So when one critic
donc
me,
lorsque un critique m'a accusé de
cowardice for not including
de couardise pour ne pas avoir inclus dans ce roman
it made me rather irritated.
Telle ou telle chose, c'est un peu agaçant.
But what's true of Christianity,
ce qui est vrai de la chrétienté, du christianisme,
in its totalitarian,
dans son
pre-enlightenment
approche totalitaire d'avant l'ère des Lumières,
before the 17th century,
avant le XVIIe siècle,
is true of any religion, including
c'est vrai de toute religion, y compris l'islam,
when it's at its peak,
quand
or,
c'est à son
one of many peaks.
Extrême ou un de ses nombreux extrêmes.
So I've got really nothing more to say on this.
Je n'ai pas grand chose de plus à ajouter sur ce sujet.
Without getting killed.
Parce que je ne voudrais pas être tué.
But one of the great tragedies, I
mais
think,
une des grandes tragédies, il me semble,
is that we're not speaking freely.
C'est qu'on ne parle plus librement.
Vous avez toujours montré un intérêt pour le plus contemporain, c'est le cas de ce roman, mais aussi pour certaines périodes historiques. Et vous alternez, au fond, les livres qui se déroulent aujourd'hui ou parfois dans un futur proche, je crois que c'était le cas de Child in Time, mais également on sent que vous appartenez à une génération qui a été très marquée par la deuxième moitié du XXe siècle et en particulier la guerre froide, le roman précédent, mais aussi Black Dogs, beaucoup de romans en fait questionnent les totalitarismes et cette, je dirais, la dernière forme qu'a pris la deuxième guerre mondiale dans les années, enfin les conséquences de cette guerre dans les années 50. Est-ce que on n'a pas du tout parlé de ça? On aurait pu parler longtemps. Vous avez grandi à l'étranger, dans une famille où le père était militaire. Est-ce que, je dirais, ce contexte historique continue, selon vous, de former votre vision du monde?
Well, as you say, I grew up,
comme vous l'avez dit,
in the shadow of the Second World War.
J'ai grandi dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale.
And its aftermath has
et ses conséquences ont véritablement formé ce que je suis.
Inevitably, that's colored practically everything I.
Inévitablement, ça a donné une teinture à tout ce que j'ai fait.
We've lived through
les énormes changements.
And the extraordinary changes we are living through right now, which are very hard to define.
Les changements extraordinaires que nous vivons en ce moment, qui sont très très durs à définir.
The turbulence now in world events.
Les turbulences dans les événements mondiaux.
It's extremely hard to define.
Sont extrêmement difficiles à définir.
Quite where we're drifting.
Nous sommes en train de dériver.
My father, for many years,
mon père, pendant de nombreuses années,
was the head of a workshop.
Était à la tête d'un.
During the 60s and 70s, that repaired tanks.
En fait, d'un atelier qui réparait les chars.
He lived in a world in which it was expected.
Il vivait dans un monde
worst case
où on s'attendait au pire.
That the North German plane would see a vast invasion of Russian tanks.
On verrait en Allemagne une invasion de tanks, de chars soviétiques.
And I used to have many arguments with him.
Et j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, de débats.
In which my position was.
Où ma position était.
The generals are always fighting the last war.
Vous savez, les généraux sont toujours en train de se battre la guerre qui vient de se terminer.
But now, post Ukraine and Crimea,
mais vous savez,
and the highly predictable
l'Ukraine,
nature of
la Crimée
of Putin,
et la nature extrêmement prévisible de Poutine,
plus the rise of China,
plus l'émergence de la Chine,
the strange
plus
lack of focus
le manque étrange de concentration aux États-Unis,
crisis of identity in Europe,
les crises d'identité en Europe,
the crisis of refugees coming from the east,
la crise des réfugiés venant de l'est,
how we're dealing with it or failing to deal with it,
comment on s'en occupe ou comment on manque de s'en occuper,
tanks rolling across the North German
les chars dans les plaines du nord de l'Allemagne
would seem a minor,
serait un événement mineur en fait,
exactly what we can define about the world,
de ce que l'on pourrait définir comme étant aujourd'hui l'ordre mondial.
When I spend time with scientists,
quand je passe du temps avec des scientifiques
who only think of problems in terms of solutions,
qui ne pensent aux problèmes qu'en termes de solutions,
it's incredibly heartening,
c'est vraiment ça, ça vous renforce parce que
to live in the world of the humanities,
ils vivent dans un monde d'humanité.
Is to live in a world of pessimism,
mais vivre dans ce monde, c'est un monde de pessimisme, d'un pessimisme profond.
Which is partly, to explain why science attracts
ce qui explique peut-être la raison pour laquelle la science m'attire tellement.
Perhaps it's the nearest I come to religion, in fact,
peut-être que c'est l'approche la plus étroite de ce que je pourrais appeler une religion.
These are good times, really, to be a novelist.
C'est une bonne époque pour être romancier aujourd'hui.
And I say that with a certain sadness.
Et je le dis avec une certaine tristesse.
This is that old Chinese curse, may you live in interesting times.
Vous savez, c'est cette malédiction chinoise bien connue. Puissiez-vous vivre en des temps intéressants.
And we are all cursed in this respect.
Et nous sommes tous maudits de ce point de vue-là.
Merci beaucoup, Ian McEwan. Des temps intéressants pour les romanciers. Je crois que vous en avez fait la démonstration ce soir pour cette première séance de ce cycle autour de la littérature étrangère à l'Odéon et avec France Culture. Merci beaucoup.
Thank you.
Merci. Merci à Michel Zlotowski pour sa traduction. Merci également à Amira Kazar. Je voudrais remercier les équipes de Radio France, Julien Bourdet, Gaël Braouezek, Yvan Charby, Véronique Villa, et puis à l'Odéon, Luc Bondy, l'équipe de l'Odéon, Pascal Brami, Alain Abdesemed, Jean Garcia, Neil Pitras, Marilène Boulan. Merci à tous.